Passons en revue quelques principes qui peuvent présider à l'élaboration et à la réalisation de nos projets. Premièrement, se donner du temps pour la mise au point de ces projets. Plus nous avons de responsabilités, plus nous devons passer du temps à préparer nos décisions et nos différentes activités. Nous pouvons aimer nos frères par action, mais aussi par imagination. En prenant le temps de rêver, d'imaginer des façons astucieuses de les aider et de nous faire aider par eux. Et c'est pour cela qu'il y a une mode absolument ridicule qui, j'espère, passera et qui consiste maintenant à donner l'impression que plus vous êtes quelqu'un de bien dans la société, plus vous êtes crevé, plus vous êtes dérangé. Voici la réflexion d'un philosophe contemporain sur le téléphone portable. Nous sommes dans un paradoxe. Les loisirs étaient l'apanage de l'élite dans toutes les sociétés antérieures. Désormais, c'est le travail, le surmenage, qui sera l'apanage des classes dirigeantes. Ce sont elles qui seront crevées. Ce sont elles qui exhiberont tous les signes extérieurs du travail. Avant, le loisir était un signe ostentatoire. On partait en vacances. Maintenant, nous entrons dans une société du travail ostentatoire, dont l'ultime colifichet est le téléphone portable. Monsieur est en conférence, mais il a son téléphone avec lui pour pouvoir être dérangé à tout instant. Qui donc l'utilise aujourd'hui pour travailler? Le cadre, le dirigeant, se téléphone pour des raisons fonctionnelles, mais aussi pour des raisons de statut. Ils font étalage de leurs différences. Ils ont l'air toujours affairés. C'est un affairement dont ils sont suffisamment fiers pour l'exhiber aux yeux de tous. Où utilise-t-on particulièrement les téléphones portables? Dans les restaurants chics ou dans les grands hôtels? Et ça veut dire, regardez, je n'ai pas une seconde à moi, je suis l'élite. Ceux qui ont plein d'heures, deux jours à eux, ce sont les gens du peuple, et ça c'est très grave. Faisons bien attention, lorsque nous faisons une homélie pour enterrer je ne sais quelle religieuse ou quelle, je ne sais quel prêtre, de ne pas dire « c'était un homme formidable, il était crevé ». Comme si l'idéal, comme si la perfection de l'évangile, c'était de se crever les uns les autres. Attention, attention, l'idéal, c'est pas d'être crevé, c'est d'aimer. Mais il y a là vraiment, voyez, une espèce de modèle de l'homme bien actuellement qui est complètement loufoque. Allô? Ah, bonjour monsieur, est-ce que je pourrais vous rencontrer? Oh oui, attendez, venez dans 3 semaines, oui, entre 10h et 10h10, j'ai un petit trou, là, je pourrais vous recevoir, vous voyez? Alors là, vous êtes le type vraiment bien, vous voyez. Tandis que si vous dites, mais parfaitement, monsieur, venez cet après-midi, vous paraissez complètement nul, quoi. Hein? Moi, je raffole quand je peux donner tout de suite, un rendez-vous comme ça, immédiatement. Parce que vraiment, c'est vrai que nous avons des vies très occupées, mais ne donnons pas l'impression que nous sommes des gens bien parce que nous sommes super occupés, dont l'agenda est archi rempli. Ce n'est pas ça l'évangile. Cela dit, attention, la vitesse est quelque chose d'excellent. Je suis tout à fait pour la vitesse. Et le TGV, c'est formidable. Ça vous fait quand même économiser beaucoup de temps. L'hélicoptère, ça permet de sauver des vies humaines, d'amener tout de suite un blessé à la cité hospitalière. Le Minitel, c'est formidable. Au lieu de passer du temps à compulser un bottin de téléphone, en 10 secondes, vous avez un numéro de téléphone de Marseille. Ne méprisons pas la vitesse. Ne méprisons pas cette révolution formidable permise par l'ordinateur. Bon, le tout est de savoir ce qu'on va faire du temps libéré. Mais on va pas revenir à la moisson par faucille. Bon, j'ai bien que ça supprime des emplois, mais on ne peut pas revenir en arrière. Bon, donc, il y a aussi un éloge de la lenteur, voyez, qui est vraiment tout à fait utopique, quoi. Hein, c'est vrai que si vous pouvez retrouver un rythme plus lent dans vos vacances, c'est très bien, mais la vitesse est quand même quelque chose de bien, et le téléphone portable peut aussi avoir de très grands avantages. Bon, et ça peut empêcher les moines de courir à l'intérieur de leur abbaye. Deuxièmement, écrire son projet dans ses lignes essentielles, afin de lui donner assez de précision et de pouvoir y revenir commodément. Moi, je suis plutôt pour les résolutions de vacances, les résolutions de retraite. Je pense que c'est bon de prendre des résolutions, surtout quand on sait qu'on doit les reprendre. Et c'est pour cela qu'il n'est pas sot de les écrire sur un cahier pour pouvoir les revoir facilement, tandis que sur une feuille volante, vous risquez de les perdre. Cette révision de vie doit embrasser les différents aspects de notre existence, vie familiale, personnelle, professionnelle, communautaire, ecclésiale. Notre relation d'amour avec Dieu doit être vécue au cœur de toutes ces activités. Troisièmement, être à la fois humble et audacieux. Savoir qu'on ne réalisera pas parfaitement tout son programme, mais ne pas en prendre prétexte pour ne rien programmer du tout. Je vous ai parlé dans une autre conférence de cette personne qui n'avait jamais pris de résolution contre son caractère un peu colérique, sous prétexte que, de toute façon, elle resterait toujours colérique. Ça me fait penser au mot de Lyoté qui gourmandait des administrateurs du Maroc qui n'avaient pas encore planté des arbres dans un endroit dont ils voulaient faire un oasis. Mais, mon général, de toute façon, il faudra des années et des années pour que ça pousse. Raison de plus, il n'y a pas une minute à perdre. Quatrièmement, ne pas remettre au lendemain ce qui est urgent. Si beaucoup de gens ne vivent pas bien l'instant présent, c'est qu'ils attendent toujours la dernière minute pour achever leur travail. Résultat, ils sont toujours en train de courir. Leur devise pourrait être ce mot qu'on avait attribué à un collègue que j'aime bien, avec lequel j'ai été longtemps professeur, « J'arrive ». Il était toujours en train de courir, « J'arrive ». Quand on vient leur demander un service, ils ne sont jamais disponibles. Ils ont quelque urgence à régler ou à bâcler. C'est dans la mesure où nous organisons le plus possible notre travail et que nous avons le courage de ne pas remettre au lendemain l'exécution de notre devoir d'État que nous pouvons nous laisser déranger par ceux et celles qui viennent chaque jour bouleverser quelque peu nos projets. Bon, vous avez même des métiers, je pense justement aux directeurs d'école, dont le métier consiste à être sans cesse dérangé. Hein, tous les directeurs et directrices vous diront que le matin, elles ne savent pas ce qu'elles vont faire. Elles vont régler les problèmes qui vont leur être posés. C'est la même chose aussi pour beaucoup de curés de paroisse, n'est-il pas vrai, mes chers confrères? Bon, l'expérience prouve que les gens les plus disponibles sont la plupart du temps des gens extrêmement organisés. Donc, il n'y a pas du tout incompatibilité, mais seulement complémentarité entre deux qualités apparemment contradictoires, l'organisation de son temps, la prévision de son avenir et l'attention au moment présent. Thérèse insistait beaucoup là-dessus. Elle disait à ses novices, vous devez faire votre travail consciencieusement. Thérèse, je vous l'ai dit, se retirait dans sa cellule pour travailler. Elle ne voulait pas qu'on perde son temps. C'est une des grandes qualités d'une carmélite. Non, c'est pas une cigale. Son métier peut-être de préparer la cithare, d'accord, mais elle doit travailler, mais sans se précipiter sur son travail. Elle disait, vous devez faire comme ces Israélites qui reconstruisaient le temple de Jérusalem en ayant à leur portée une épée pour se battre éventuellement contre des attaquants. Et l'épée, disait-elle, c'est celle avec laquelle vous devez combattre cette frénésie de la vitesse. L'abbé de Rancé, celui qui a réformé les cisterciens dans l'abbaye dite de la Trappe, à Soligny-la-Trappe, disait à ses moines qu'il devait pratiquer l'art de la désoccupation, c'est-à-dire s'occuper de son travail sans s'occuper de trop. Tous les spirituels disaient cela. Teilhard de Chardin parlait d'une indifférence passionnée. On doit être en quelque sorte détaché de son travail parce que notre travail n'est pas le tout de notre vie. Nous ne devons pas faire de notre travail l'idole de notre vie. Et pourtant, nous devons nous passionner pour notre travail. Il y a là un équilibre que chacun doit essayer de trouver. Il faut prendre très au sérieux son travail, son devoir d'État, sans s'engloutir dedans, en pratiquant sans cesse la désoccupation. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi vivre avec toi dans le fond de mon cœur. Je dois à la fois être attentif à Dieu et à mon travail. Bon, faire de temps en temps une pause café, comme on dit dans le Nord. Je m'en vais prendre une tasse de café avec mon épouse au premier étage de mon commerce. Je me retire un instant. Ce n'est pas de l'évasion, parce que mieux je le fais, plus je fais ces évasions, plus je pourrai être attentif aux autres et à mon travail. Enfin, ranimer sans cesse notre espérance. Ce travail, nous l'accomplirons d'autant plus efficacement que nous l'accomplirons dans l'espérance. Une double espérance. Celle que demain peut être plus beau qu'aujourd'hui, aussi bien pour les autres que pour nous, sans nous aveugler par exemple sur la profondeur de la crise que traverse aujourd'hui l'Église, nous devons être attentifs aux signes de renouveau que Dieu suscite dans le monde et redire avec le psalmiste, « Oui, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Oui, je verrai un renouveau de l'Église. » Comme le remarque Gilbert Cesbron, le contraire du pessimisme n'est pas l'optimisme, c'est l'espérance, laquelle est le propre de l'homme beaucoup plus assurément que le rire. Nous devons donc être à la fois audacieux dans notre espérance et persévérants dans notre action. Mais surtout l'espérance que rien ne sera perdu de tous les actes d'amour que nous pouvons poser à longueur de journée. Je crois qu'il restera éternellement quelque chose des sourires que j'aurai offerts à Dieu dans le tumulte de ma journée, dans les orages de mes activités quotidiennes. En somme, notre travail doit être illuminé par la supplication que Jésus nous demande de reprendre sans cesse, sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne.